Chapitre 9. Jalouse des étoiles. Ils se sont peu parlé durant leur premier dîner. Ne supportant pas le silence, Karine a meublé en lançant quelques sujets. Se dire quoi à écorcher tous les trois quand on ne se connaît pas, quand on revient de là, le bas du bas. Il fut question du nom des lieux-dits, de la beauté des paysages, du calme absolu, de la gentillesse des accueillants, juste de quoi batailler contre les anges qui passaient. Karine a ouvert une bouteille de vin et s'est aperçue qu'elle serait seule à la boire. Clémence vacillerait à la première gorgée. Rémi a décliné. « Vraiment ?»« Incompatible avec mon programme de musculation. » « Ah !» Il ne se souvenait pas à quel point il était compliqué de ne pas consommer d'alcool dans la vraie vie, celle en dehors des murs gris, sans que les autres soient surpris. Karine n'a pas insisté. Après avoir rangé les assiettes et les couverts dans le lave-vaisselle, Clémence s'est éclipsée dans sa chambre. Elle a fermé la porte derrière elle, a hésité, a tourné la clé, s'est ravisée. Elle se bat contre ses peurs, gagne parfois. Son doudou coincé dans le cou, elle ouvre l'enveloppe et en déballe le contenu pour mieux l'apprivoiser. Elle touche chaque élément du bout des doigts comme elle a aimé le faire avec l'arbre au milieu de la pièce, tout à l'heure quand les deux autres avaient le dos tourné. Puis elle range le tout et referme le rabat. Elle a pris des BD, décide d'aller se brosser les dents pour ne plus avoir à ressortir de la pièce et pour ne pas croiser Karine dans la salle de bain. Elle la trouve gentille mais bruyante et volubile, un peu futile aussi. Clémence porte des vêtements neutres, ne se maquille jamais, préfère ses cheveux courts. Elle trouve les décolletés arrogants et les faux ongles sans intérêt. Elle n'a jamais vraiment eu de modèle féminin, à part Mathilde Le Tellier, dont elle aime le chignon et le rose sur les joues, parce qu'on dirait une poupée. Karine fume une cigarette, accoudée au balcon qui surplombe le jardin, un dernier verre de vin à la main. Le soleil a déjà disparu derrière la crête et continue d'éclairer la montagne en face. Les nuages se colorent de mauve. Adrien revient du potager avec ses outils et son chien qui se déplace avec une grande délicatesse, lance d'un seau rempli d'œufs dans la gueule. Des chauves-souris commencent à s'échapper de leur abri entre les lattes en bois qui couvrent la façade et s'envolent dans une trajectoire rapide et saccadée. Karine n'aime pas ces bestioles. Elle a toujours peur qu'elles s'agrippent à ses cheveux. Leur vol furtif et imprévisible l'angoisse. « Elle ne mange pas beaucoup, la petite ?» constate Rémi qui vient de la rejoindre. « Quand on a envie de disparaître ?»« Pourquoi ?»« J'ignore. La seule chose que je sais, c'est que les angoisses sont capables de couper l'appétit. »« C'est étrange. Même quand j'ai peur, j'ai faim. »« Un gros bébé comme toi a besoin de calories. Évite quand même de finir toutes ses assiettes. » « Elle n'a pas tort, pense Rémi. » Déjà qu'elle mange peu, si en plus il lui prend ses restes, il n'a cependant pas envie d'expliquer à cet inconnu pourquoi elle se jette ainsi sur des plats succulents, pourquoi son corps réclame à ce point un surplus de bonne nourriture. Sur des plateaux à la propreté douteuse, les repas souvent infâmes de la prison étaient toujours insuffisants, surtout pour un gros bébé comme lui. Que dire des prix exorbitants de certains produits proposés par la cantine de l'établissement ? Le magasin pour les détenus est la seule façon d'améliorer leur alimentation et leur quotidien, à condition d'en avoir les moyens. Heureusement, ses parents lui donnaient de l'argent, mais il fallait ensuite ruser, en donner un peu pour qu'on vous laisse tranquille, ne pas faire de stock sous peine de le voir disparaître quand vous aviez le dos tourné, attendre la commande hebdomadaire, en profiter rapidement et patienter jusqu'à la semaine suivante pour manger quelques fruits et un peu de chocolat. Il se demande encore de quelle façon son corps a réussi à fabriquer du muscle avec si peu de protéines. « Elle fait comment pour tenir debout ?» s'étonne-t-il en pensant aux rares bouchées avalées par Clémence. « Comme beaucoup d'autres, elle s'accroche à trois fois rien. » Rémi fume en silence. À pouvoir porter le regard à des kilomètres et sentir le vent du soir sur l'eau de sa joue, il est pris d'un vertige. Une bouffée de liberté s'engouffre jusqu'au fond de ses poumons. Shoot de drogue douce. Et ce calme. Ce calme. À peine un chien dans une maison voisine, un camion qui passe sur la départementale au loin, Pas de détenus qui hurlent, pas de verrous qui grincent, de portes qui claquent, pas de télé qui braille, tant pis pour les autres. Pas d'autres. Tu fumes depuis longtemps ? Interroge Karine. L'adolescence. J'aimerais arrêter, mais c'est dur. Pareil, cette cochonnerie nous tue et on continue. T'as des enfants ? Interroge Karine. Non. Et donc, tu es libraire ? L'embarras s'empare à nouveau de Rémi. Il écrase son mégot dans le pot en terre garni de sable posé au coin du balcon et élude la question en parlant de fatigue après cette première journée. Tu es sûr que tu veux pas dormir là ? Capucine nous a montré la cabane dans la forêt. Le confort est rudimentaire. Je m'en contenterai. Si elle savait. Puis il s'éloigne, portant sur le dos son sac et son désarroi. La lune, à son dernier quartier, vient de se lever et distribue de faibles rayons de lumière blanche entre les troncs noirs. Il ne manque plus que quelques cailloux pour être sur les traces du petit pousset. Rémi suit la piste à peine dessinée sur le tapis d'aiguilles qui mène à la cabane, sous le couvert des arbres et de la nuit qui tombe. Quand Adrien la lui a fait visiter, il s'est dit que cet espace constituerait une bonne transition entre sa cellule et une chambre normale presque trop coquette. 2,50 m/4, 3 petites fenêtres sans barreaux, cachées au milieu des sapins, en retrait du chemin. Il faut savoir qu'elle est là pour la trouver, ou bien chercher des champignons. Cette cabane un peu sombre, seulement éclairée par une lampe à gaz, est parfaite pour réapprendre à son corps, étape par étape, l'ivresse des grands espaces, la douce folie du silence. Un vieux lit bateau où il doit plier les jambes pour se coucher, une table, une chaise, un petit coin doté d'un miroir, d'une cruche et d'une bassine en terre cuite pour se rafraîchir le visage, se brosser les dents, se rincer les mains. Un fauteuil, une table de chevet où poser un livre, un poêle à bois pour l'hiver, des petits rideaux fleuris aux fenêtres. Il devrait essayer en tôle, qui sait, des fleurs sur un tissu devant les barreaux et 3 points de gagné dans les statistiques du taux de récidive. Il préfère remonter vers la surface en marquant des paliers de décompression, ne pas aller trop vite, pour ne pas être étourdi par trop de liberté. Déjà, tout à l'heure, à la table du dîner, cuisine excellente, regard bienveillant, brise douce. Il en avait des sueurs, comme si tout était trop beau pour être vrai. Et en fumant sur le balcon, il se sentit aspiré par l'horizon. S'il n'y avait pas eu la rambarde, il se serait envolé. Il ne veut plus tomber de trop haut. Il ne ferme pas à clé derrière lui. Que risque-t-il ? Il a côtoyé des blaireaux bien plus dangereux que ceux de la forêt pendant ses années à l'ombre. Le tout premier palier sera de dormir sans verrou, fermé de l'extérieur. Pouvoir sortir en pleine nuit si ça lui chante, aller se soulager contre un arbre, sans en référer à personne. Il fait défiler son passé, ce qu'il s'autorisera à dire pour raccrocher les wagons sans évoquer la prison. Ses études, son métier, la maison construite de ses propres mains qui lui a échappé, les yeux doux de sa femme, du moins les premières années, ses illusions perdues. Il pleure sa vie d'avant. Il pleure Pauline. Un peu plus bas, sous d'autres rayons de la même lune, Clémence aussi pleure dans son lit, bousculée par la nouveauté, aspirée par sa propre vacuité, chahutée par un avenir trop pressé de la jeter dans la grande ronde des adultes. Karine a éteint sa tablette sur laquelle elle visionnait une émission. Elle est revenue du Pays Basque où il fait bon manger, chanter, jouer. Elle a collé son oreille à la porte et entendu les soubresauts de Clémence. Elle hésite. De quoi a besoin cette petite musaraigne perdue ? Tranquillité ou réconfort ? Son instinct de mère répond en premier « Va la câliner ». Elle ouvre la porte et passe la tête, puis les épaules, puis le corps tout entier sur la pointe des pieds. À genoux, au pied du lit, elle pose sa main sur l'os saillant de son épaule, puis elle attend. Longtemps. « Tu me dis pourquoi ?» Et c'est elle finalement. Il y a assez de problèmes sur Terre pour ne pas rajouter les miens. Alors viens, il faut que je te montre quelque chose. Karine saisit la main de Clémence et l'attire sur le balcon. Frêle, La jeune femme frissonne, à peine couverte d'un débardeur dans la fraîcheur du soir. Son aîné l'entoure de ses bras et lui soulève le menton. Clémence n'aime pas être touchée. Elle se laisse pourtant faire. Regarde là-haut, toutes les étoiles. Quand j'étais petite, mon père me disait qu'elles étaient là pour absorber nos soucis. Il y en a des milliards dans l'univers. Alors, on a le droit d'avoir chacun la nôtre pour veiller sur nous et aspirer nos peines. Il suffit de choisir la tienne et de lui faire confiance. Je n'en connais aucune. On ne voit que les plus brillantes à cause du morceau de lune qui vient de se lever, mais on aperçoit Vega. Regarde. Karine lui explique ensuite qu'il s'agit de la 5e étoile la plus brillante du ciel et qu'il suffit de repérer la petite ours et la grande ours pour la trouver dans la constellation de la Lyre, par une petite opération de géométrie dans l'espace. Clémence trace une ligne fictive entre l'étoile polaire au bout de la petite ours et Alcaïde au bout de la grande, puis part à 90 degrés à l'opposé et découvre l'intense luminosité de Vega. Elle aime instantanément cette étoile et trouve soudain Karine beaucoup moins futile. « Et si elle est déjà prise par quelqu'un d'autre ?» s'inquiète Clémence. « Je suis sûr qu'elle a passé son tour pour t'attendre et qu'elle brille plus que les autres pour que tu la retrouves facilement. Et toi, quand tu as appris ?» Karine lui raconte ce collègue dont elle était amoureuse, professeur de physique, passionné d'astronomie. Les nuits étoilées passaient avec lui sur une couverture au milieu des champs et durant lesquelles il ne s'était jamais rien passé. Il n'avait Dieu que pour elle. J'étais jalouse des étoiles. Je me suis fait une raison et j'ai gardé quelques repères dans le ciel. Allez, je file me coucher. Nous avons du travail demain. Quelques minutes plus tard, Clémence cherchera une couverture dans laquelle elle s'enroulera pour parler encore un peu à Vega, puis elle se couchera en serrant contre elle la boîte qu'elle a sortie de l'enveloppe, avec le fol espoir que quelques couleurs se tatouent sur son cœur pendant la nuit. C'est un autre tatouage dont il sera question en fréquentant cet endroit. Elle ne le sait pas encore, mais son cœur y croit déjà.